Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot.
Jean-Louis Tour.
23h41, c'est l'After sur RMC jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Jimmy Brown, avec Kevin Diaz et notre invité Aymeric Magne, donc le représentant de l'actionnaire au Mans. Et c'est le moment où, Daniel, tu voulais parler des questions de gouvernance du foot français avec Aymeric. Des difficultés avec les droits télé.
Oui, effectivement. Vous arrivez, vous revenez en Ligue 1. Donc, bah, finalement, il n'y a plus de différence entre être en Ligue 2 et Ligue 1 au niveau de l'oseille qui rentre pour les droits télé. Quand vous êtes parti, c'était pas comme ça. Comment vous redécouvrez la Ligue 1? Comment vous analysez la situation et ce qui se passe? Et est-ce que vous croyez à une issue favorable un jour ou l'autre? Parce qu'on commence à désespérer que ça puisse bien se passer, quoi, ou bien se terminer, l'histoire.
On redécouvre pas parce que quand on a acheté le club, on savait exactement où on allait. On avait les droits et du coup ça a aussi participé à la dévalorisation de du prix d'acquisition forcément. Ça n'aurait peut-être pas été la même chose si on avait les droits d'avant. On a touché à peu près entre 1,6 et 1,8 sur la Ligue 2. On va toucher 5 millions sur la Ligue 1 avec 2 de garantie. Pour être clair. Okay. On soit clair. Ça veut dire qu'il y a 2 millions de garantie plus 3 millions qui viennent du fonds de réserve. Donc ça veut dire que quand moi j'étais à 3, on était sur entre 18 et 21. Donc la différence elle est énorme et du coup la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2, je dis bien le bas de la Ligue 1 parce qu'il n'y a pas les droits qui sont liés à l'UEFA, elle est relativement faible, ce qui fait qu'entre guillemets si on redescend le risque
il y a pas de faire, alors qu'avant on disait c'est catastrophe financière
alors que les salaires forcément sont plus élevés qu'en Ligue 2.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut être raisonnable et raisonné et essayer de pouvoir garder une masse salariale cohérente puisqu'il y a un risque de retourner en Ligue 2 et surtout qu'il faut adapter aujourd'hui les salaires à la réalité de la Ligue 1 et c'est un vrai sujet.
On sait que le président du Mans, puisqu'on en avait parlé avec lui, n'est pas le plus grand défenseur de la gouvernance actuelle et du président de la LFP. Comment vous avez analysé la situation et le fait qu'on soit arrivé à zéro et qu'on n'ait plus du tout de droit télé, qu'on ait une chaîne Ligue 1 Plus parce qu'on n'avait pas d'autres solutions finalement, qu'on n'arrive à trouver aucun accord avec des diffuseurs?
Donc, premièrement, nous, on n'a pas de surprise et on le savait. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour nous, c'est un upside sur la suite. C'est-à-dire que dans notre business plan, on estime que la valeur de la Ligue 1, elle n'est pas adaptée. Ça, c'est clair et net.
C'est quoi, selon vous, la valeur de la Ligue 1?
Alors, je dis, Saada était venu à l'époque dans un conseil d'administration de la LFP. Il nous avait expliqué par A plus B que le prix, c'était entre 500 et 600 millions d'euros. Aujourd'hui, on est entre 150 et 200 millions d'euros. On estime qu'il y a un juste...
Je ne touche pas les 150-200 aujourd'hui.
Je parle de la valeur globale. Oui. Si on compare, on compare les choses. Saada, il nous avait parlé de valeur globale. Donc on
mais
estime.
Comment il l'estime, pardon, mais c'est tout simple. C'est le prix de l'abonnement fois le nombre d'abonnés. On tombe
globalement
loin,
en plus
500,
la pub, etc. Globalement, il avait fait son calcul et il l'avait montré. Montré de manière magistrale. Hein. Enfin, c'était une belle démonstration.
C'était quand ça?
C'était en 2022 ou 2023, si je ne me trompe pas.
Oui, parce que récemment, il a dit que ça valait plus que 200.
Après, forcément, le produit aujourd'hui, c'est aussi une question de concurrence. Il a été déprécié.
Le produit n'est pas plus mauvais qu'il y a 3-4 ans. Hein. Même en termes de qualité de jeu, de match, alors on a peut-être moins de vedettes, mais.
Non, mais c'est après, le produit, de changer de diffuseur tout le temps. C'est le produit,
c'est l'offre et la demande.
Oui, mais moi, je te parle du produit, quand tu le vois, le produit, il est.
Oui, le produit brut, c'est pas la qualité des matchs. C'est pas la qualité des matchs, c'est le manque de visibilité. T'as changé de diffuseur 1000 fois et tout ça.
J'ai bien compris, mais à force d'avoir usé les diffuseurs. Ça, c'est certain. D'avoir rompu la relation avec Canal, enfin tout ça, c'est les gens qui dirigent le foot français qui ont fait tout ça.
On est d'accord.
Donc aujourd'hui, on se retrouve à zéro.
Ouais.
Est-ce que d'après vous, il y a une issue possible à un moment? Est-ce qu'on est capable de retrouver? Maintenant, on ne dit plus un diffuseur, on dit un distributeur.
Ouais. Je pense que la première chose à faire, c'est que on essaie de marketer au maximum le produit Ligue 1, ce qu'on n'a pas fait jusque-là. On a essayé de faire des négociations, à mon sens, soit en gré à gré ou des appels d'offres qui n'étaient pas forcément adaptés. La priorité, c'est que le championnat soit sexy. Et aujourd'hui, à mon sens, il l'est pour personne. Alors que pourtant, comme vous le dites, la qualité de jeu, elle est là. On est le premier fournisseur de talent au monde. On vient de faire deux Champions League d'affilée. Alors, c'est le PSG, hein, c'est autre chose, mais ça fait partie du championnat de France.
Donc, comment on le rend sexy, pardon? Mais comment on rend le produit sexy? Vous dites qu'il faut qu'il redevienne sexy.
Bah déjà, moi, si je suis diffuseur, déjà, vu les catastrophes de ces dernières années, déjà, je me dis, moi, je vais pas parler avec le président de la LFP qui a géré le foot français comme il l'a géré. Je ne vais pas parler avec la LFP qui est dirigée en sous-main par un seul club. Déjà, je veux que ce soit nettoyé, propre, que tout le monde vienne me voir et que j'ai des gens unis face à moi, que j'ai pas des gens qui se font la guerre en permanence, comme encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu un CA aujourd'hui pour dire que la proposition de loi qui veut réformer la gouvernance, c'est de la merde.
C'est ce qu'on dit de la Ligue.
C'est ce qu'on dit aujourd'hui.
Avec ces mots-là, mais
c'est ce qu'on dit aujourd'hui, les gens qui étaient réunis au CA. Quand on voit la liste des gens, qui aujourd'hui était au CA, Valdemar Quita, Sartori. Personne ne sait qui c'est Sartori, hein, à part que c'est le gendre de Ribaud et que c'est un laquais de Nasser. Donc j'ai dit Quita, Sartori, Joannin.
Bernard Joannin, Damien.
Murat, qui a été acheté en 3 restos. On a qui d'autre? On a Carl Olive. Carl Olive, il va à l'encontre du gouvernement et du parti avec lequel il est. Parce que maintenant, il est passé dans le parti de Macron. Donc, le Cornu a dit que cette loi était importante. La ministre des Sports a dit que cette loi était importante. Mais lui, tellement il est fan baduf du PSG, que de toute façon, bonjour Nasser, merci Nasser, au revoir Nasser.
Les temps,
on le sait. De toute façon, il a pris une autre option qui est, je pense à ma gueule, je gère mon dossier tout seul et j'y arrive parce que je suis le meilleur. Et parce que Lille, j'arrive à gérer ça tout seul et j'ai plus besoin de personne. Puis comme en plus, l'actionnaire au-dessus est pote Qatar et tout, donc il n'y a plus rien à dire.
Loïc Ferry?
Bah, Loïc Ferry, okay. C'est cuit chemise avec la brune, son ami de 20 ans.
Ah, j'en ai un là. Victoriano Menero.
Bah, déjà, évidemment. Sa présence au CA est complètement délirante.
Bien sûr.
Parce que c'est la deuxième voix du PSG, donc voilà. Délirant. Voilà. Bon, ben voilà.
Marc Keller?
On a tout dit. Bah, Marc Keller, il décide même pas. Je blaguais avec Kevin tout à l'heure parce qu'il n'a pas le droit à la télécommande à la maison.
Ah, bah oui,
il est même Keller, dans son club. Ouais. Il décide de plus rien à Strasbourg. Parce qu'il vient au CA pour quoi faire. Voilà. Ça ne sert à rien.
Et donc, ces gens ont appelé une révision en profondeur du texte.
Qui est des choses à revoir sur le texte, je peux être d'accord. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'image.
Les différents points ne sont pas délirants.
Voilà. Ils disent que la lutte sur le piratage n'est pas assez bonne dans le texte. Le modèle économique sur les droits télé n'est pas assez bon.
Bah, oui, merci.
L'impact financier direct des clubs via les paris sportifs.
Aujourd'hui, moi, si je suis diffuseur, je me dis, mais soit j'ai des mecs en face de moi qui sont tous d'accord. Il me présente un projet, il y a les 9 matchs, on avance, on arrête de se faire à la guerre. Et j'ai pas d'un côté tous les mecs que t'as cités et de l'autre côté, parce que faut citer les autres maintenant. Marseille, Lyon, Rennes, Lens.
Le PFC.
Mmh. On est en train de parler de gros clubs quand même, hein.
Le Mans, du coup.
Le Mans, du coup, maintenant, qui va être dans le camp d'en
face. Je parle pour vous, hein, mais c'est Thierry Gomez qui nous avait parlé quand il était venu au Mans en février.
Moi, si je suis diffuseur, je me dis, attends, mais soit il me nettoie la vitrine. Et on avance et on travaille ensemble. Soit j'y vais pas, quoi. Parce que je sais jamais de quoi ils sont capables. Non, mais t'as vu les bras cassés.
Pour revenir sur ce que tu disais juste sur la question de distributeurs-diffuseurs, ils espèrent bien revenir à des diffuseurs parce qu'il y a un des points où ils disent on veut pas d'affiche en clair pour pas nuire au prochain appel d'offres. Donc ils espèrent bien qu'il y a un prochain appel d'offres et qu'il y a un nouveau diffuseur.
Ça, je l'entends, c'est quelque chose qui
mais j'aimerais bien, du coup, la réponse à la question que j'ai posée à Wickman sur le fait de rendre sexy le championnat, comment on fait en fait?
La première réponse, et je pense que c'est là où t'as raison, Daniel, c'est que il faut qu'il y ait un intérêt collectif. Et c'est très difficile de trouver un intérêt collectif entre différents clubs. Pourquoi ? Parce qu'on parle pas de, d'un côté, il y a des très gros clubs qui aujourd'hui se focusent uniquement sur des droits UEFA.
Exactement.
De l'autre côté, il y a des petits clubs, c'est un championnat de 5-6 en Ligue 1, Le Havre, Le Mans, qui se battent pour 4-5 millions d'euros. De l'autre, on a la Ligue 2 qui récupère 1 à 2 millions d'euros par club. Donc en fait, on parle pas tous la même langue. Et le problème, c'est que pour construire un produit, et c'est ce que font les ligues fermées, hein, je suis désolé de le dire, mais en fait, ils se mettent tous autour de la table. Ils s'accordent d'abord et derrière, ils ont un produit qui est cohérent, consistant et ils arrivent avec une seule voix et c'est comme ça que ça marche.
T'as pas besoin d'être une ligue fermée. Regardez l'APL par exemple. C'est pas
mais je donne l'exemple pour exagérer. La Ligue 1.
Aujourd'hui, la première ligue, c'est bien sûr l'exemple, mais ce n'est pas que la première ligue. En fait, bon, pour ceux qui suivent un petit peu les épisodes de la série sur le petit club gallois de Wrexham, en fait, tu comprends que déjà, il y a la Football League, c'est-à-dire les 4 premières divisions professionnelles. Si tu rentres dans les 4 premières divisions professionnelles, donc disons en France, on a transformé le national cette saison en Ligue 3 à partir de la saison prochaine, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en France, voilà, la Football League française, c'est la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3. Si les clubs français ne se rendent pas compte que tout le monde doit manger, parce que si tout le monde mange et que tout le monde mange à sa faim, de la Ligue 1, du premier au dernier, mais également jusqu'au dernier de la Ligue 3, voire à ceux qui vont descendre dans le futur national, eh ben ça permettra à tout le monde d'aller piocher dans ces clubs qui seront mieux structurés, comme font les clubs anglais qui vont régulièrement prêter ou piocher dans les divisions inférieures, parce que ce sont des clubs qui sont bien structurés. Et donc, en pensant collectif, eh ben on va tous arriver plus loin. Mais en pensant que d'abord, je garde mon prêt gardé, d'abord c'est mon club, d'abord c'est mon bilan...
Le pré carré.
En gardant son pré carré, je peux te dire que c'est pas comme ça que tu vas arriver à faire grandir la Ligue 1 et le football français.
Et là aujourd'hui, c'est chacun sauf son cul.
Voilà.
Parce qu'il y a également dans le CA aujourd'hui, il y avait également l'UNFP. L'UNFP, c'est fragile l'UNFP. Et puis ils ont tous leurs petits avantages. Ils sont bien, ils vont pas se brouiller avec le grand patron. Donc ils sont là, ils disent bon alors vous décidez quoi, bah allez on est avec vous. Voilà, c'est comme ça là, ils sont tous derrière. On sait, on l'a raconté mille fois. De toute façon, on sait.
C'est pour ça que les investisseurs privés arrivent, parce qu'il y a des besoins de cash, pour être clair, et ils viennent et ils pensent que en travaillant de manière collective, et c'est ce qu'ils voient dans d'autres pays, donc et c'est peut-être ce qui va arriver un jour sur la Ligue de football professionnelle. On va.
Il faudra aller changer le CA déjà, mais là le CA il est complètement verrouillé. Le CA, il est pro-Nasser, 100%. Et lui, le développement de la Ligue 1, on a bien compris que ça ne l'intéressait plus maintenant. Parce que lui, il est dans le développement européen et mondial du PSG. La Ligue 1, c'est juste son tapis de course. C'est juste une réalité, c'est tout.
Je pense que les objectifs du PSG, c'est de chaque année gagner le championnat de France, la Coupe de France et surtout la Champions League.
Oui, ouais, mais en fait, le problème, c'est gagner la Ligue 1, même s'ils sont deuxième une fois, l'important, c'est qu'ils soient en Ligue des Champions, c'est tout. Et ça, ils le sont les yeux fermés. Donc, la Ligue 1, le développement de la Ligue 1 ne les intéresse plus. C'est plus leur marché. Ils ont plus de marché en Ligue 1, c'est terminé.
Bah, je pense que si la Ligue 1 est faible, sur le long terme, ça ne les aidera pas à gagner une troisième, une quatrième, une cinquième Champions League. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2008, il y a tout Lalan qui disait l'entraînement, c'est plus dur que les matchs de championnat, à l'époque du Grand Lyon. Mais ça a fait une certaine limite à mon sens dans leur développement, et Lyon aurait pu gagner la Ligue des Champions peut-être s'ils avaient un peu plus de concurrence. Donc, après, avoir un deuxième, un troisième,
le paradoxe du PSG, c'est deux Ligues des Champions alors que justement il y a une Ligue 1 faible.
Le problème, voilà, c'est le foot a beaucoup changé depuis cette période là et aujourd'hui si tu te mets uniquement dans une préparation comme ils l'ont fait cette année, où la Ligue 1 sert d'entraînement et que effectivement ensuite l'entraînement, le vrai, est même plus dur que les matchs de Ligue 1, ils arrivent au top en termes d'intensité et de physique et de forme physique pour la Ligue des Champions. Et surtout, la Ligue des Champions a changé. Maintenant, il y a plus de matchs. Donc plus de matchs, ça permet d'être dans le haut niveau plus souvent. Et donc on n'est plus dans le cas de figure de Lyon où ils avaient besoin de concurrence. Aujourd'hui, le PSG n'a plus besoin de concurrence en Ligue 1.
En revanche, ce qui est vrai, c'est que si le fait de prendre la Ligue 1 comme un entraînement et qu'en parallèle il y a des équipes qui se développent, oui, mais peut-être que tu peux perdre le titre à force parce qu'il y a d'autres qui travaillent mieux. Ce serait ça une logique de championnat compétitif.
Il y a quand même une différence de x2,5 sur le budget de celui qui est derrière quand même. Hein.
Mais même plus.
Oui, même avec les remplaçants.
Minimum.
Le PSG depuis 2012, elle a donc perdu deux fois, donc en 15 ans. Et si jamais il devait le reperdre une autre fois, et alors quoi?
Oui,
et alors? Est-ce que c'est un drame? Tu termines deuxième, tu retournes en Ligue des Champions.
Là, il a raison.
C'est plus leur marché.
L'objectif du PSG, c'est la Ligue des Champions.
Et même ton marché et même ta clientèle ne serait même pas affectée par la perte du titre, au fond.
Bon, Aymeric, merci beaucoup.
Merci à vous.
On va suivre ce projet parce que franchement, on est.
Pour rendre la Ligue 1 sexy, Djokovic et consorts.
Quand Djoko vient, j'appelle Daniel.
C'est quoi les futures étapes là? Donc il y a une nouvelle star qui arrive. C'est ça ce que vous nous avez dit
tout à l'heure? Il me parlait d'investisseurs. Les grosses étapes, c'est transitionner d'un mercato de Ligue 2 à Ligue 1 quand on vient de National. Donc là, il y a un vrai travail de fond avec beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Ça, c'est certain.
Et donc, qui va s'occuper de tout ça, pardon?
On est en train de.
C'est la direction en place? Il va y avoir un directeur sportif?
On va structurer le club à la fois sur la partie administrative, business.
C'est exemple s'il change vite d'avis. On ne sait jamais. Attends, d'ailleurs, on en a pas parlé de l'histoire de Grégoire Hendy. Merde.
Bah, tu veux le. Non, mais on peut en parler là, si tu veux.
Non, on n'a pas le temps, on fera demain.
Bon, je te gardais 3 minutes, hein, je pense que c'était bon. Bon, très bien. Merci, Aymeric. J'ai 2-3 infos pour finir quand même. C'est pour ça qu'on aurait pu parler de Lorenzi, mais c'est pas grave. Donc, sur Lamine Yamal. Donc, on repasse sur la Coupe du Monde. Il y a inquiétude après sa blessure. Il est touché aux ischio-jambiers. Et bah, De La Fuente a été très rassurant aujourd'hui. Si tout se poursuit normalement, comme jusqu'ici, il devrait être prêt pour le match du 15 juin. Donc pour l'entrée en liste de l'Espagne.
Grade 2, 3 à 4 semaines, voilà. Pour être au top, c'est normal.
C'est pas pour autant qu'il va jouer le premier match, dit De La Fuente. On verra la situation à ce moment-là. Donc peut-être aussi qu'ils vont le préserver un peu sur le début de compétition. Mais voilà.
Non, sur Lorenzi, ce qu'on a appris de nouveau, c'est qu'en fait, certes, il a donné son accord à Nice et signé le contrat le jour de Marseille-Nice, donc fin avril.
Oui.
Mais en fait, l'histoire, c'est pas... Je signe à Nice et ensuite l'OM s'intéresse à moi et donc forcément ça me fait changer d'avis, tout ça. En fait,
ce qu'a raconté Jean-Pierre Rivère, notamment dans l'after après le barrage.
Discutait.
Qu'on en plus.
Non, je crois pas. En fait, Greg Lorenzi discutait avec les deux clubs. C'est pas l'OM qui est venu après Nice, il y a pas une chronologie.
Ah oui,
ils
oui.
discutaient avec les deux.
Ça c'est la vérité, mais c'est pas ce que racontait River. C'est bon, ça que je te dis. Mais ok.
Ils discutaient avec les deux clubs, donc ils savaient très bien que l'OM était intéressé. Et malgré tout, il a décidé d'aller à Nice. Donc il avait d'abord donné sa parole, puis signé le contrat. Mmh. Et Marseille soutient encore aujourd'hui à Marseille. On dit, mais nous, on ne savait pas que Laurent Dié avait signé un contrat. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, ça veut dire que c'est Laurent Dié la personne bizarre dans l'histoire. Parce que si tu discutes avec deux clubs, que tu finis par en choisir un, et que tu annonces, c'est bon, je signe, je suis avec vous, et que tu ne vas pas voir l'autre pour lui dire, j'ai choisi, je trouve que c'est quand même très bizarre comme méthode.
Et surtout, moi, je comprends pas ce qui l'a fait changer d'avis, puisqu'il parlait autant aux deux clubs, tu vois. S'il s'engage avec Nice et que Marseille se réveille, bon, bah, ok, ça peut se comprendre et tout.
Alors, mais s'il parle avec ces deux à égalité. Ce qui a pu faire changer, c'était effectivement la situation du club à ce moment-là. Ouais. Même s'il y avait la clause elle était nette dès le départ. Mais il y a tout ce qui a commencé à circuler sur l'éventuelle vente du club. En gros, je ne sais pas où ça va finir par aller. Mais pour Nice, c'est forcément un préjudice. Et là, je comprends parfaitement Jean-Pierre Rivière la raison. Parce que dans le laps de temps, ils ont viré Flo Maurice. Mmh. Et il dit, attends, mais maintenant tu nous dis non. Nous, on n'a plus de directeur sportif. Donc, il faut qu'on se mette à rechercher un directeur sportif. Et puis encore maintenant, on est resté en Ligue 1. Je dis, attends, oui. Où tu nous plantes.
Bah, oui.
Donc moi, je comprends parfaitement qu'il y a un préjudice qui va forcément se terminer au prud'homme. Mmh. Lorenzi veut aller à l'OM, il va à l'OM. Mais ce que je trouve très bizarre, c'est que si à l'OM on dit bah ouais, l'autre il nous a pas prévenu qu'il avait signé un contrat.
Mmh. Mais il y a l'histoire donc du CDI
Ça veut dire que c'est Lorenzi qui a quand même une personne à la parole un petit peu douteuse quand même.
Ce qui peut éviter les prud'hommes, c'est s'il y a donc bien un CDI à Marseille qui passe au-dessus le CDD éventuel à Nice.